choses que Dieu lui-même m'a enseignées. Alléluia! Sur ce texte, 2 Rois, chapitre 4. Deux Rois, chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 17. On va faire une lecture un peu longue, ne vous en faites pas. Deuxième livre de Rois, chapitre 4, à partir du verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée les lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien ? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Et Élisée dit à Géasi, « Sans terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne les salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, minu. Il n'y a eu ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. et il s'étendit sur lui, c'est-à-dire son corps sur son corps. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Tsunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Amen. Amen. Le message de ce matin, je l'ai intitulé « Contact rapproché ». Alléluia. Contact rapproché. Il a fallu un contact rapproché pour qu'Élie communique la vie à cet enfant qui était mort. La Bible dit qu'il a mis sa bouche sur la bouche de l'enfant. Il a mis ses yeux sur les yeux de l'enfant. Il a mis ses mains sur les mains de l'enfant. Il a mis ses pieds sur les pieds de l'enfant. Il a mis son corps sur le corps de l'enfant. Il y a eu un contact rapproché de la part de quelqu'un qui n'était pas ordinaire. De la part de quelqu'un qui avait dit à son maître Élie, « C'est dont j'ai le plus besoin quand tu vas partir. » C'est que je reçoive une double portion de l'Esprit qui est sur toi. Et Élie lui a dit, tu me demandes une chose difficile, mais cela deviendra possible si tu me vois pendant que je serai enlevé. Et les autres fils de prophètes ont dit à Élisée, sais-tu que le maître Élie va partir aujourd'hui? Il leur a dit, je le sais comme vous, taisez-vous. Il voulait l'entraîner dans la distraction, mais il a dit, taisez-vous. Il est parti de Gilgal, il est allé à Bethel, il est allé à Jéricho, au-delà du Jourdain. Il a vu Élie monter dans les ciels avec des chars de feu. Il a crié, mon père, et sa cavalerie. Il a reçu la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Et cet homme, voilà qu'un jour, il va à Sunem. Une femme qui la voyait passer dit à son mari, chérie, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Bien-aimé, je voudrais t'exhorter à avoir le sens du discernement des hommes de Dieu. Je n'ai rien contre les hommes de Dieu, mais aujourd'hui, il y a aussi des farfelus. Il y a des farceurs, il y a des gens qui s'élèvent sans la connaissance de la parole pour dire n'importe quoi. Il y a des gens qui s'élèvent et qui s'autoproclament des prophètes, des pasteurs, des bishops, des diacres, qu'importe. Mais aie le sens du discernement. Avant parfois de donner ta tête, demande, cher Saint-Esprit, est-ce un homme de Dieu? Avant de courir à un séminaire prétendu, je sais quoi. Prie et demande, Seigneur Jésus, est-ce là où je veux aller? Est-ce auprès d'un homme de Dieu qui a quelque chose à me communiquer? Cette femme avait le sens du discernement. Aujourd'hui, nous courons comme simplement parce qu'on dit il y a séminaire. Nous courons ci et là parce que simplement on dit il y a un apôtre qui est arrivé dans la ville. Nous courons, nous abandonnons nos églises, les lieux où nous savons que la véritable parole est prêchée simplement par curiosité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Je n'ai rien contre le fait que tu ailles un jour dans une autre église. Je n'ai rien contre le fait que tu ailles un jour te faire imposer les mains par un autre serviteur de Dieu. Mon problème et mon souci, c'est que ça soit un vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma prière, c'est que ça soit un vrai. C'est que ça soit quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est que ça soit quelqu'un qui marche dans la sanctification. C'est que ce soit quelqu'un qui a été appelé de Dieu. Parce que s'il a été appelé de Dieu, Dieu l'a équipé. Et si Dieu l'a équipé, Dieu l'a équipé pour ta bénédiction et pour ma bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors, cette femme a dit, cet homme est un homme de Dieu. Nous allons lui faire une chambre, une maison. Comme ça, quand il passe chaque fois ici, il habitera chez nous. Vous savez, quand vous exercez l'hospitalité des hommes de Dieu, vous allez être bénis. Un jour, Abraham était assis parmi les chiens de Mamré. Il a vu trois personnes qui voulaient passer, qui venaient, qui voulaient les dépasser. Il a dit, non, s'il vous plaît, mon Seigneur, il ne faut pas passer. Venez, je vais apprêter quelque chose pour que vous puissiez manger. Je dois vous bénir. Vous ne pouvez pas passer outre. Il a reconnu dans ces hommes qui étaient comme des étrangers. Il a reconnu qu'il y avait un qui était son Seigneur. Quand vous exercez l'hospitalité des hommes de Dieu, vous allez un jour être visité, vous allez un jour être béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais vous dire des choses. Écoutez, on a galvaudé les rapports entre les pasteurs et les fidèles. On a galvaudé, c'est-à-dire, on a détruit en quelque sorte le rapport qui doit exister entre l'homme de Dieu, appelé de Dieu, et l'homme ordinaire. Je vais te dire que si Dieu a placé quelqu'un de loin, qu'il a établi, qu'il a choisi, c'est pour ta bénédiction. Le fait que tu sois en contact avec lui ne doit pas dénaturer le caractère de ta relation avec lui parce que ça reste un homme de Dieu. Il peut manger avec toi dans la même assiette, ça reste un homme de Dieu. Il peut aller avec toi dans la même grande surface, il reste un homme de Dieu. Lorsqu'il libère la parole de sa bouche, ce n'est pas la parole d'un homme ordinaire. Lorsqu'il parle pour te bénir, ce n'est pas une bénédiction qui est en l'air parce que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Quelqu'un va m'écouter et dire, le pasteur prêche pour lui-même, je ne prêche pas pour moi-même, je prêche la parole de Dieu. Élisée arrivait là-bas, il séjournait là-bas. Et un jour, il regarde cette femme et dit à son serviteur Géasi, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme qui a montré beaucoup d'empressement pour nous? Il dit, est-ce qu'on doit parler de lui au chef des armées, il dit, j'habite parmi mon peuple. Vous voyez, j'ai de bons rapports avec ceux qui sont autour de moi, disait-elle. Nous devons avoir de bons rapports avec ceux qui sont autour de nous. La Bible dit, autant que cela dépend de nous, vivons en paix. Recherchons la paix et la sanctification sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur. Ça veut dire que la parole de Dieu met la sanctification sur le même piédestal que le fait de chercher la paix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu as des problèmes partout, même si tu t'es sanctifié, il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire que tu marches sur un pied. Les deux pieds de ce texte, c'est la paix et la sanctification pour voir Dieu. Et quand Élisée dit, est-ce qu'on doit parler de toi au chef des armées, elle dit non. Mon Seigneur, j'habite parmi mon peuple, j'ai des bons rapports avec les gens de mon peuple, je connais le chef des armées, j'ai audience auprès de lui. C'est pas ça, Géasi dit, n'as-tu pas remarqué que cette femme, cette jeune femme, elle était jeune, son mari était vieux, mais ils s'entendaient. Aujourd'hui, lorsque l'écart d'âge est trop éloigné entre l'homme et la femme, ça crée certains problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens viennent te dire, mais tu es fraîche encore, tu n'as que 32 ans, ton mari en a 65. Et alors, lisez bien ce texte, c'était un mariage en termes d'âge qui était disproportionné. La Bible dit que l'homme était vieux. La femme était jeune. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ton mari est vieux, n'aie aucune honte à ça. Tu parles à quelqu'un? Elle regarde et dit, mais comment elle est allée épouser ce vieux-là? Attends, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Ce n'est pas une question de niveau d'instruction. C'est une question de cœur. Ce n'est pas une question de richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'on regarde, on dit, il est riche. On regarde, on dit, il est baraqué. On regarde, on dit, il est ci, il est ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est lorsque le Seigneur l'a préparé pour toi. Est-ce que Dieu l'a préparé pour toi? Oui. Il est noir. Oui, il peut être noir. Il est jaune. Oui, il peut être jaune. Il peut avoir des tout petits yeux. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est simplement que Dieu l'a préparé pour toi. Alors, Élisée lui dit, Madame, l'année prochaine, tu auras un fils. Alors la femme lui dit, mon Seigneur, ne me mens pas. Ça fait des années que je cherche un gamin. Ça fait des années que je cherche un enfant. Je ne l'ai pas eu. Alors, s'il te plaît, ne me nourris pas de faux espoirs. Ne me dis pas des choses que je ne vais pas vivre. Ne me mens pas, homme de Dieu. Vous savez, quand longtemps vous avez attendu une bénédiction, vous venez un dimanche à l'église et le Seigneur te dit, le Seigneur parle au travers de son serviteur. Il y a des moments où tu te dis, non, ça, ce n'est pas pour moi. Parfois, tu te dis, est-ce que ce qu'on est en train de dire là va m'arriver? Ça, c'est de l'incrédulité. Soit comme Marie qui dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Je ne comprends rien. Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Mais si toi, tu parles, Seigneur, je sais que cela arrivera, qu'il me soit fait selon ta parole. Et là, la dame va avoir un gamin, un garçon. Oh, vous vous imaginez la joie de cette femme. Ça veut dire que cet enfant était un enfant, permettez-moi l'expression, gâté, choyé, chouchouté. Alléluia! Je ne vous sens pas. Et voilà que le garçon grandit, et il grandit, et il grandit, et il atteint l'âge de 20 ans. De 20 ans! C'est un gamin. Un jour, il dit, je vais aller voir mon père qui était occupé dans son business. Et il va au champ. Son père était riche, un homme d'affaires. Il avait des serviteurs, il y avait des ânes, il avait un palais, il avait beaucoup de biens. Il va le voir là-bas pour voir comment les gens travaillent. Et tout d'un coup, oh ma tête, ma tête, ma tête, ma tête. Il a eu une insolation. Des maux de tête violents. Le papa dit, oh, André, prends-le, ramène-le chez sa maman. J'y reviendrai. Et là, le garçon va chez sa mère. Sa mère le prend sur ses genoux. J'aime beaucoup cette image. Je me demande combien de femmes aujourd'hui peuvent prendre sur leurs genoux leur garçon de 20 ans. Quand je suis allé au pays en 1996, je crois, j'ai rencontré ma mère. Et quand elle m'a vu, elle m'a dit, viens mon fils, je vais te porter. Alléluia. J'ai dit, mais est-ce que maman se rend compte de mon âge? Je n'avais pas encore l'âge que j'avais aujourd'hui, faites la différence. Mais j'étais âgé. Et puis, elle me dit, viens, je vais te porter. Pour ne pas la froisser, je suis allé et elle m'a porté. Mais elle a senti au bout de quelques temps que, bon, ce n'est pas les gamins de 2 ans. Hein? Et puis, moi-même, j'avais senti que c'était le temps de me relever parce qu'elle avait un peu supporté le poids. Vous voyez, c'est un contact qui démontre à quel point on reste le fils de sa mère. Je voudrais dire à quelqu'un, même quand tu auras 60 ans, riche, président de la République, tu resteras toujours l'enfant de ta mère. Ne mets pas de l'éloignement entre toi et tes parents. S'ils veulent te prendre dans leurs bras, laisse-les te prendre dans leurs bras. Si la maman veut te porter sur ses genoux, tu restes son fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne regardez pas les rides qui vont creuser son visage. Ne regardez pas ses cheveux qui seront devenus tout blancs. Ne dis pas ces vêtements sont en lambeaux. Ça reste ta mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça reste ton père. Et je parle à quelqu'un ce matin. Garde ce contact. Garde cette intimité avec tes parents. C'est pourquoi la Bible peut dire honore ton père et ta mère. Afin que tu vives longtemps, afin que tu sois béni, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Aujourd'hui, combien de gens ont gardé cette proximité avec leurs parents? Certains parce qu'on leur a dit que leurs papas sont des sorciers. Il t'a pas mangé quand tu étais jeune. Il t'a pas mangé quand tu étais dans le sein de son épouse, ta mère. Et c'est seulement maintenant parce que tu es en Europe. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? Ah oui, il va me manger. Il va te manger. D'ailleurs, pour te dire toute la vérité, ta chair était encore plus tendre quand tu avais 6 mois. Maintenant que ta chair est ridée là, avec toutes sortes de produits sur ton corps, ta nourriture charnelle n'est même plus bonne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Garde ce contact avec tes parents. Et le garçon est sur les genoux de sa mère. Et puis voilà. Quelques heures plus tard, cet enfant âgé de 20 ans décède. Vous pouvez vous imaginer le choc de cette femme. Vous savez, quand vous voyez votre enfant mourir dans vos mains, dans vos bras, sur vos genoux, cet être qui est sorti de vos entrailles, il n'y a pas de plus grande douleur que ça. Il faut la consolation du Saint-Esprit pour nous permettre de continuer, pour nous permettre d'avancer. Alléluia. Alléluia. J'ai vu ça et j'ai vu des femmes dignes traversant des épreuves de cette nature dans la foi et la consolation du Saint-Esprit. Tout pasteur que j'étais, je me dis, comment arrive-t-elle à supporter ça? Comment arrive-t-elle à vivre ça? Mais c'est parce que le Saint-Esprit nous console. Quelqu'un peut dire un bon amen? Le Saint-Esprit vient et nous rend capables. Le souvenir n'est pas effacé, mais le Saint-Esprit nous rend capables de rendre gloire à Dieu. Le Saint-Esprit nous rend capables de dire, Seigneur, merci. Même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, tu fais toutes choses parfaites, je te bénis. L'enfant meurt. Quel aurait été ton réflexe? Alléluia. Elle prend le garçon et monte avec dans la chambre du prophète. Elle met le garçon sur le lit. Je croyais qu'elle s'imaginait, ce garçon avait sa chambre de toute façon. La femme pouvait aller coucher ce garçon dans sa propre chambre. Je voudrais que nous comprenions un certain nombre de choses ce matin. Mais la femme met l'enfant dans la chambre du prophète, sur le lit du prophète. Probablement parce qu'elle pensait que, peut-être en couchant l'enfant sur le lit du prophète, houp, il allait ressusciter. Elle met l'enfant, elle le regarde, rien. Elle ferme la porte. Elle va voir son mari. Alléluia. Contact rapproché quand Élie va venir. Les mains contre les mains. Dites amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Dieu cherche des hommes et des femmes capables par leur contact avec les autres de communiquer la vie. Dieu cherche des Élisées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme qui est comme Élisée. Quand les gens sont en contact rapproché avec toi, les gens reprennent la vie. Quand les gens sont en contact rapproché avec toi, les gens reprennent la foi, ils reprennent l'espérance. Quand ils sont en contact et rapprochés avec toi, leurs vies sont changées et transformées. Vous savez, il y a des gens, leur contact ne te communique pas la vie. Leur contact ne te communique pas la foi. À leur contact, tu ne reçois pas l'espérance. À leur contact, tu ne reçois pas la connaissance de la parole de Dieu. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu voudrait que toi et moi, nous soyons des Élisées des temps modernes. Que lorsque les gens sont en contact avec nous, nous leur donnons le goût des choses de Dieu. Nous leur donnons la joie qui vient du Saint-Esprit. Nous leur donnons l'amour pour le royaume des cieux. Nous leur donnons de l'espérance, même là où il n'y a pas d'espérance. Dieu cherche des hommes et des femmes qui, comme Élisée, lorsque vous êtes en contact avec eux, même si vous étiez complètement abattu, vous vous relevez. Même si vous ne voyez pas le bout du tunnel, vous commencez à le voir. Même s'il n'y avait pas le moindre petit nuage, mais vous commencez à espérer dans votre esprit, à voir ce que les autres ne voient pas. Dieu cherche des Élisées. Dans les contacts rapprochés. Ah, alors je voudrais dire à quelqu'un, toi tu es en contact rapproché avec qui? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu ne voudrait pas que tu sois un bâton. Dieu ne voudrait pas que tu sois le lit d'Élisée. Quand la femme a couché l'enfant sur le lit n'a pas communiqué la vie à cet enfant. Élisée a donné son bâton, signe de la puissance. Vous savez que Moïse a fendu les eaux de la mer Rouge avec un bâton qu'il a tendu vers les eaux du fleuve des gens. Peut-être qu'il pensait que son bâton communiquerait la vie. Et Géasi a mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais l'enfant n'est pas revenu à la vie. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est pas ce genre de symboles qui peuvent donner la vie. Dieu cherche des hommes. Dieu ne cherche pas des bâtons. Dieu ne cherche pas des lits. Dieu ne cherche pas des objets matériels inanimés. Dieu cherche des hommes avec une âme vivante remplie de la puissance du Saint-Esprit et qui soient en contact avec les autres au point de transformer leur vie. Il y a des lits dans notre église. Il y a des bâtons dans notre église. Vous pouvez être en contact avec eux. Votre vie n'est pas changée. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je voudrais vous dire une chose, mes bien-aimés frères et sœurs. Il y a des gens, quand ils voient des sorciers, ils prennent la Bible et disent, toi, tu ne me feras rien. C'est pas ce livre-là qui fera quelque chose. Ah, oh, les sorciers vont venir me manger. Il prend une bassine d'eau, il met devant la porte. Il dit, ils ne pourront jamais traverser. Ils vont voir un grand lac, un grand océan. Il y a des sorciers qui viennent d'Afrique. Ils traversent l'océan Pacifique. L'océan Indien. Je parle à quelqu'un. Et toi, tu mets une bassine d'eau devant la porte. Et tu dis, ils ne viendront pas. Si tu n'as pas Jésus, tu peux avoir la Bible sous ta main. Tu n'as pas Jésus dans ton corps, dans ton cœur. Tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit en toi. Tu peux avoir la Bible en main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux porter toutes les crucifix que tu veux, les effigies de tous les saints. Tu peux avoir les images de Saint-Nicolas, Saint-Paul, Saint-Robert, Saint-Edmond, Saint-Emmanuel. Je veux te dire que ces choses-là ne communiqueront jamais la vie. Ces choses-là ne vont pas te sauver. Ce qui est important, c'est un contact rapproché avec le Seigneur de gloire. Ce qui est important, c'est un contact rapproché avec celui qui est l'auteur de la vie. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, il faut que tu comprennes que tu as besoin de Jésus pour que tu vives une relation de contact rapproché. Je parle à quelqu'un? Le lit. Est-ce que tu as un lit? On peut être en contact avec toi et rien. Un bâton. Mais regardez, quand Élisée arrive, là où le lit a échoué, là où le bâton a échoué, Élie va réussir dans un contact rapproché. Il se met sur l'enfant et puis il réchauffe l'enfant. J'aime des gens qui, à leur contact, tu es réchauffé. Tu es réchauffé dans la foi. Tu es réchauffé dans l'espérance. Je parle à quelqu'un. Vous savez, le premier principe de thermodynamique en physique nous dit qu'il n'y a qu'un corps chaud qui peut communiquer la chaleur à un corps froid. Ce n'est pas l'inverse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, si tu sais que la personne avec qui tu es en contact rapproché est froide, comment peux-tu t'imaginer qu'elle te réchauffera un jour? Et puis, l'enfant est réchauffé. OK? Mais il n'est pas encore revenu à la vie. Et puis, Élie commence à prier en marchant. Il prend possession du territoire dans la maison. Je parle à quelqu'un. Je reviendrai sur ça. Il revient. Vous allez voir qu'il y a eu des choses, des guérisons. Quand Jésus a un jour guéri un aveugle, il s'y est pris en deux temps. Il y a des guérisons qui viennent étape par étape. Il y a des miracles qui peuvent avoir lieu tout d'un coup. Alors beaucoup de gens, quand ils parlent des miracles, ils veulent toujours voir les miracles instantanés. Ma Bible m'enseigne des miracles qui ont eu lieu par étape. Même le Seigneur lui-même parle du potier où la première fois le vase n'avait pas réussi, il a recommencé. Dieu peut se prendre d'un seul coup, tout comme il peut opérer des miracles dans ta vie, petit à petit, étape par étape. Je parle à quelqu'un ce matin qui ne voit pas la gloire de Dieu parce qu'il s'attend toujours à un miracle spectaculaire. Oh mon Dieu. Et puis la deuxième fois, l'enfant fait sept fois. et il revient à la vie. Et Élisée dit à son serviteur, appelle madame, qu'elle vienne prendre son fils. Je ferme la parenthèse, je ne vais pas parler de la joie de cette femme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Aïe, 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 aïe. Je voudrais dire déjà à quelqu'un, ce n'est pas parce que ce fils est mort que Dieu n'est pas capable de le ramener à la vie. Ce n'est pas parce que ce projet de ta vie est mort que Dieu est incapable de le ramener à la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es complètement abattu, te disant c'est terminé. Ce n'est jamais terminé avec Dieu jusqu'à ce que Dieu dise que c'est terminé. Yeah! C'est ça, ma sœur. Alléluia! Contact! Mon frère, ma sœur, je voudrais te demander, qu'est-ce que tu communiques aux gens avec lesquels tu es en contact? Il y a des gens, quand tu es en contact avec eux, ils te refroidissent. Dans ta volonté de servir Dieu, ils vont te refroidir. Dans ta volonté, même de venir offrir ton offrande à Dieu, ils vont te refroidir. Quand tu as un projet, même pour bénir un homme de Dieu, ils vont te refroidir. Je parle à quelqu'un. Oh, ce genre de personnes ne peuvent pas être bénies. C'est pourquoi si quelqu'un t'empêche de servir le Seigneur, tu lui dis, laisse-moi servir Dieu. Je le sais parce que je sais ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire et ce qu'il fera. Alléluia! Non, non, ne te laisse pas refroidir. Il y a des gens, quand tu es en contact avec eux, alléluia, ils peuvent refroidir ton zèle pour la maison de Dieu. Ils te disent, mais pourquoi? Tous les jours, à l'église, mardi, vendredi, pourquoi? Pourquoi tu es tout le temps là pour aller faire le boulot? Frère, Dieu cherche des hommes qui vont te dire, ma sœur, ça fait un mois que tu ne viens pas servir. Ma sœur, il faut. C'est le Dieu qui nous bénit. Il a dit, j'honorerai celui qui m'honore. Dieu n'est pas ingrat pour t'oublier. Allons servir le Seigneur. Allons balayer la maison de Dieu. Allons chanter, danser pour la gloire de Dieu. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui vont te communiquer le feu, l'onction, la puissance du Saint-Esprit, plutôt que ceux qui vont te refroidir dans ton zèle pour servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu es parmi les Rwandais et vous êtes deux Congolais, c'est une église des Rwandais. Laisse-moi servir dans l'église des Rwandais. Si c'est là que Dieu m'a placé, parce qu'en lui, il n'y a ni Rwandais, ni Congolo, ni Burundo, ni Tchadien. Si Dieu m'a placé ici et que quelqu'un te dit, c'est l'église des Angolais ou des Congolais, dis-lui, laisse-moi servir où Dieu m'a placé. Ne refroidis pas mon zèle, parce que c'est là ma place, parce que c'est là que Dieu m'a appelé. Alléluia. Ne refroidis pas mon feu pour la maison de Dieu. Il y a des gens, quand tu es en contact avec eux, ils vont refroidir ton amour pour les serviteurs de Dieu. Ils les critiquent tellement, tellement. Et puis après, quand il a un problème, il vient. Pasteur, impose-moi les mains. Moi, je ne sais pas comment tu passes ta vie à me critiquer. Ça m'importe peu d'ailleurs. Mais Dieu le sait. Même quand je t'impose les mains, il n'y a plus rien qui passe. C'est la malédiction. Moi, je ne le sais pas. Après, tu vas partir. Il n'y a pas d'onction. Il n'a pas d'onction. J'ai l'onction. J'ai la révélation de la parole de Dieu. J'ai la connaissance avec le Seigneur. Alléluia. C'est toi le problème. Ils vont refroidir ton amour pour l'Église. Mon frère, ma sœur, le salut est individuel. Ne te laisse pas embarquer par quelqu'un parce que ce quelqu'un-là n'aime pas l'Église, n'aime pas le pasteur, n'aime pas les frères et les sœurs et il te dit, toi aussi, tu dois suivre le même chemin. Mais le salut est individuel, Bandeko. Alors, je n'aime pas dire le mot bandeko. Bandeko. Parce qu'un pasteur m'a dit bandeko, c'est comme bande de cons. Alors, j'ai dit maintenant bandeko. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le salut est comment? C'est individuel. Tu ne veux pas? Ok, c'est ton problème. Mais laisse-moi aller. Laisse-moi servir le Seigneur. Alléluia. Il y a des gens, quand tu es en contact avec eux, ils vont te décourager par rapport à ton engagement pour les royaumes des cieux. Ils vont te refroidir dans ton feu, dans ta consécration. Et finalement, au lieu que tu reviennes à la vie, on va te tuer deux fois. Parce qu'ils vont t'éloigner de Dieu. Être éloigné de Dieu, c'est la vraie mort. Tu es déjà mort et quelqu'un vient en contact, rapproché avec toi, t'éloigne davantage de l'église, t'éloigne davantage de Dieu, tu es deux fois mort. Sans même que tu te rendes compte. Quelqu'un va te dire, oui, mais il faut me suivre. Moi, je suis de ta tribu. Et alors, au ciel, il y aura des tribus. Je ne crois pas du tout en ça. Les tribus existent, elles sont bonnes. Alors, alléluia. Dès lors que nous avons compris que Dieu va au-delà de nos tribus, de nos races, de la couleur, du niveau d'instruction sur cette terre. Alléluia. Ne meurs pas deux fois. Ne meurs pas deux fois. J'ai vu, une dame me racontait l'histoire de quelqu'un, ici en Belgique, qui à l'époque, il s'était fracturé le pied en tombant. Et on l'a pris. On l'a placé sur les vélos à l'époque. C'était les vélos qu'on utilisait beaucoup. On l'a amené à l'hôpital. Et alors, en cours de route, il tombe encore. Il se fracasse une autre fracture, deuxième fois. Ah! Alléluia! Il y a des gens qui risquent de mourir deux fois. Parce qu'ils sont en contact avec des gens qui sont considérés comme des bâtons. Qui sont considérés comme des lits. Il n'y a rien. Moi, je veux être en contact avec des hommes qui vont réchauffer ma foi. Avec des femmes qui vont réchauffer mon espérance. Avec des hommes qui vont rallumer le feu de mon amour pour le Seigneur. Alléluia! C'est avec de tels hommes que je veux marcher. C'est avec de tels hommes. Revenons un petit peu au petit garçon. Le petit garçon est maintenant âgé de 20 ans et il meurt. Remarquez. Quand il est au champ, il dit à son papa, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, papa, j'ai mal à la tête. Son papa, je ne sais pas si vous avez analysé sa réaction, la réaction du papa. Le papa appelle un ouvrier et dit, André, viens, chef. Il dit, prends le garçon, ramène le garçon chez qui? Les hommes, hein. Monsieur banalise la chose. Son fils dit « j'ai mal à la tête », mais monsieur trouve que c'est une histoire négligente. Il ne prend pas la peine de revenir avec son fils à la maison. Est-ce que vous me suivez? Il est beaucoup plus préoccupé par quoi? Par son business. Les hommes, je ne voudrais pas vous attaquer, mais je ne fais que lire les Écritures. Ah, alléluia! Alléluia! Le papa trouve que... J'ai mal à la tête, papa! Il trouve que c'est banal. Son fils unique, c'est lui qu'ils ont attendu avec son épouse. Il ne prend pas la peine d'aller avec ses garçons à la maison lui-même. Essayez d'être à ses côtés. Ce qui l'intéresse, c'est le business. Dites amen. Mes frères et sœurs, quand nos enfants nous parlent, ayons le temps de les écouter. Dites un bon amen. Parfois, Dieu va les utiliser pour nous parler. Si on ne prête pas attention à ce qu'il dit, on néglige, on banalise, nous allons passer parfois à côté des messages importants. Écoutons aussi nos enfants. Ne banalisons pas toujours ce qu'ils nous disent. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit, m'a enseigné, je vous l'enseigne, je le transmets. Alléluia. Alléluia. Ne minimise rien. Parfois quand il te dit j'ai mal à l'oreille, prends ça au sérieux. Parce que toi quand tu as mal à l'oreille, deux jours après tu vas voir le médecin. Mais elle peut, lui, il peut, juste j'ai mal. Et puis ça se calme, j'ai mal, ça se calme, mais tu ne fais rien. Jusqu'au jour où la chose devient grave. Nous n'avons plus le temps d'écouter nos enfants aujourd'hui ou de prendre au sérieux parfois ce qu'ils nous disent. Si nous leur donnons le temps, nous aurons aussi la possibilité de savoir que là, il est en train de dire des choses qui ne tiennent pas la route. Non, mais est-ce que vous me suivez? Messieurs, ne se déplace pas. Messieurs, ne fait rien. Un tel mari, on peut l'appeler un mari responsable ou irresponsable. Non, les femmes, dites bien. Tous les hommes là, ils sont calmes. Mes chers frères, je voudrais m'adresser à nous les hommes. Ne soyons pas des hommes irresponsables dans nos foyers.
Alléluia!
Ne soyons pas aveugles dans nos maisons. Ne soyons pas sourds dans nos maisons. Entendons, voyons et réagissons en temps opportun. Ne reléguons pas toutes les tâches à nos femmes. Prends le garçon, va le donner à sa mère, qu'elle s'en occupe.
Vous savez, quand un enfant évolue bien, il est le fils de son père. Quand il va de travers, il est le fils de sa mère.
Et c'est étonnant de voir que cela s'applique même aux chrétiens.
Je parle bien? Quelqu'un m'entend?
Amen.
Dieu nous a permis d'avoir cet enfant à deux. C'est-à-dire, c'est nous deux qui devons nous en occuper. Même s'il arrive que ton business est très important, n'oublie jamais que l'héritage que Dieu t'a donné après ton fils ou ta fille est plus important que le business qui va rester, mais ton fils, Dieu te demandera des comptes au ciel. Mais ta fille, Dieu te demandera des comptes au ciel sur la manière dont tu t'auras occupé de lui ou d'elle.
Je parle à quelqu'un.
Oh, mes affaires me prennent du temps.
Je vais vous dire une chose. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie en matière de voyage. D'ailleurs, vous me voyez, je ne voyage plus beaucoup.
Malgré les invitations que j'ai parfois, je dis, je ne pars pas. Parce que quand vous êtes tout en train de partir, dans les avions, dans les hôtels, en train de prêcher parfois, les enfants, là, ils vous manquent, vous les manquez, ça ne va pas. Donnons-leur du temps. Le mari responsable se serait dit, de toute façon, il y a des travailleurs, je vais aller avec mon fils. Si je dois l'emmener à l'hôpital, je vais le conduire à l'hôpital. Et c'est aujourd'hui ce que nous voyons dans la société d'aujourd'hui. Surtout quand la femme a eu son permis de conduire, l'homme devient encore plus libre et plus indépendant.
Dites un bon amen.
Ça doit être elle qui doit aller la prendre à la crèche. C'est elle qui doit l'amener à l'hôpital. C'est elle qui doit l'accompagner au foot. Parce que tu sais conduire, je t'ai donné la voiture, tu cherches encore quoi?
Les hommes,
est-ce que vous m'entendez? Oh Seigneur de gloire.
Yo! Alléluia!
La pauvre femme reçoit le garçon. Et le garçon, comme nous avons dit, meurt sur ses genoux.
Elle ne pleure pas. Peut-être qu'elle a pleuré, mais la Bible ne nous le dit pas. Elle ne crie pas.
J'ai dit, cette femme est extraordinaire. Parce que même moi, si j'entre dans une maison et je trouve un cadavre, le premier réflexe, c'est de sortir en courant et de dire, eh bébé, il y a un cadavre. L'enfant meurt sur elle. Elle ne crie pas. Dites amen.
Et n'appelle pas les gens. Elle ne crie pas au secours vers son mari. Elle ne fait rien de pareil. Alléluia. Pourquoi?
Je vais vous donner trois raisons. C'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné ces choses. Première chose, Oh mon Dieu. Cette femme, alléluia,
sait dans quelles conditions son fils est né. Quand elle avait reçu la parole de la part de Dieu, les gens de son quartier n'étaient pas là. Elle parle à quelqu'un? Pourquoi il va appeler les gens du quartier? Elle sait dans quelles conditions son fils est venu au monde. Elle sait que son fils est venu au monde par un miracle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant que son fils a quitté le monde, elle sait que le Dieu qui est capable de faire venir quelqu'un à la vie par un miracle est aussi capable de faire revenir la même personne de la mort à la vie par un miracle. Alors elle ne crie pas. Elle veut d'abord aller voir celui qui lui a donné cet enfant par miracle pour entendre ce qu'il va dire. Elle dit, s'il y a eu un premier miracle, il y aura un deuxième miracle. Je voudrais dire à quelqu'un que les miracles de Dieu dans ta vie ne sont pas terminés. Il y a eu des miracles, il y en aura d'autres. Crois qu'il y en aura d'autres. C'est pourquoi tu ne dois pas te mettre à crier partout ta détresse. C'est pourquoi tu ne dois pas te mettre partout à te plaindre auprès de gens qui n'ont rien à voir avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a eu un premier miracle, il y en aura un deuxième. S'il y en a eu deux, il y en aura trois. S'il y en aura trois, il y en aura quatre. Autant que ce sera nécessaire, Dieu accomplira un miracle pour toi. Dieu accomplira un miracle pour toi. C'est pourquoi cesse de pleurnicher à tout bout de champ.
Il y a des moments où nous avons l'impression que ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est fini. Il n'y a plus rien qui puisse encore arriver. Si Dieu a agi avec un miracle, pour que cet enfant vienne à la vie, il est aussi capable d'agir pour un miracle pour que cet enfant ressuscite des morts. Ça, c'est la première chose. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a pas de un sans deux avec Dieu. Il n'y a pas de deux sans trois avec Dieu. Il n'y a pas d'infini sans plus l'infini avec Dieu. Vous n'avez rien compris.
La femme ne crie pas. Elle ne pleure pas. Elle ne veut pas enterrer son fils.
Écoutez la deuxième raison.
Avant que celui par qui le miracle est arrivé ne lui dise les mots de la fin. Ok? Elle dit, je vais aller voir celui par qui le miracle est arrivé. Elle est à Sunem. Élie est au Carmel. Ça fait 40 kilomètres entre les deux villes. 40 kilomètres, c'est à peu près Anvers-Bruxelles. Tu as laissé ton fils dans une chambre, mort. Et te voilà sur un âne avec un ouvrier qui t'accompagne. Ah, sur 40 kilomètres, ce n'est pas en voiture qu'elle est partie. En voiture, tu fais 30 minutes. Quelqu'un m'entend? Sur le dos d'un âne, vous pouvez mettre une heure, deux heures sur des routes cabossées là de la Palestine. Pendant ce temps, avec toute la chaleur qu'il y a, ton fils est en train de se décomposer. Ah, mes frères. Et la voilà, sur un dos d'âne, partant vers celui par qui le miracle est arrivé. Au fait, ce miracle est-il arrivé par Élisée? Non, ce miracle est arrivé par Dieu lui-même. Élisée n'est que le représentant, celui que Dieu a utilisé. Alléluia! Alors, tant que celui qui t'a appelé à être ce que tu es n'a pas encore dit le dernier mot, même si les choses se dégradent de n'importe quelle manière dans une situation, tu ne lâches pas, tu vas dans la prière, tu vas lui dire, Seigneur, est-ce que c'est comme ça, Ndetoyo Kanaki? Dis-moi, mon Dieu, tes promesses, c'est ça! Je veux avoir le dernier mot. Si tu me dis que mon commerce là ne se relèvera plus, alors tu me montreras autre chose à faire, j'arrêterai. Mais tant que toi tu n'as pas encore dit le mot de la fin, je suis venu te voir pour entendre ce que tu vas me dire. Il faut avoir une telle foi. Nous nous décourageons vite, très vite.
Lequel d'entre nous, dans ces conditions-là, aurait fait 2 heures ou 3 de parcours à travers les routes cabossées et sur une ânesse pour aller consulter l'homme de Dieu? Lequel d'entre nous? Aujourd'hui, il y a des autoroutes. Tu prends la voiture, tu arrives. Peut-être même que tu vas téléphoner. Vrai ou faux? Et là, je vous montrerai un secret. Pas tout le temps appeler les hommes de Dieu. Il faut aller pour faire le pas de la foi. Vous avez vu, Naaman avait la lèpre. Hein? Il pouvait envoyer des messagers aux gens d'Israël pour dire qu'on m'envoie leur prophète pour venir me guérir ici en Syrie. Aujourd'hui, on n'a pas compris ce que ça veut dire que les hommes de Dieu. Il est venu depuis la Syrie pour voir l'homme de Dieu, encore qu'il s'imaginait que l'homme de Dieu sortirait devant lui. À cette époque, les hommes de Dieu, ils étaient des vrais hommes de Dieu respectés. Et c'est comme ça que les gens étaient bénis. Je dis, quelqu'un, il te voit, il dit, ah, c'est quoi? Attends, toi tu me fais ça, mais il y a quelqu'un qui me dit, tu restes là. Alléluia. Et cette femme arrive et elle voit Élisée, elle dit, mon Seigneur, qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit, ne me donne pas de faux espoirs. D'abord, quand elle arrive au loin, Élisée la voit et dit à Géasi, Géasi, je vois la tsunamite. Va lui demander, est-ce que tout va bien, son mari, ses enfants, est-ce que tout va bien? Géasi part. Madame, mon maître m'a dit, quelle visite. D'abord, attendez, j'arriverai à ça. Je vais vous dire une autre chose. Avant de partir, la dame envoie quelqu'un pour dire à son mari, envoie-moi quelqu'un, un ouvrier, avec une ânesse. Alléluia. Je veux partir. Son mari dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller voir l'homme de Dieu? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. La nouvelle lune, c'est quoi? C'était le premier jour de chaque mois. En Israël, on appelait ça d'une manière communément, on disait la nouvelle lune. C'était le premier jour de chaque mois. Et les jours du sabbat, c'était des jours particuliers pour des fêtes religieuses en Israël. C'était des jours solennels pour des grandes festivités en Israël. Donc, pour le mari, si ce n'est pas le jour de la pleine lune, si ce n'est pas le jour du sabbat, ça ne sert à rien d'aller voir, rendre visite à l'homme de Dieu. Dis-moi pourquoi tu veux aller. Ce n'est ni la nouvelle lune. Alléluia. 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 Ça veut dire que le mari n'attache de l'importance qu'à ces deux jours-là. Et il ne croit que Dieu ne peut opérer véritablement que ces deux jours-là. La pleine lune et le jour du sabbat. Mais Dieu est un Dieu qui opère le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui dans nos églises sont comme le mari de la tsunamite. Ils ne croient venir dans la présence de Dieu que le dimanche, jour solennel. Quand on parle des réunions de mardi, quand on parle des réunions de vendredi, ils disent, mais ce n'est pas encore sabbat, ce n'est pas la nouvelle lune, on va aller perdre notre temps. Tu ne connais pas le jour où Dieu va te visiter. Dieu n'attendra pas que la nouvelle lune, Dieu n'attendra pas que le dimanche pour te bénir. Ne sois pas un chrétien de dimanche. Quand on dit qu'il y a prière le mardi, tu te dis, c'est le Dieu qui agit aussi le mardi. Quand on dit qu'il y a prière le vendredi, viens dans la maison de Dieu, viens, parce que tu ne sais pas le jour où Dieu va te visiter. Si cette femme devait attendre la nouvelle lune ou attendre le Shabbat, son fils allait davantage pourrir dans leur propre maison. Je parle à quelqu'un. Si tu n'attends que le dimanche pour venir ici, il y a des bénédictions que tu aurais eues le mardi, le temps de la prière, ou le vendredi, ou les autres jours, lors des convocations saintes, mais qui te passent, parce que pour toi, il n'y a que les nouvelles lunes, il n'y a que les shabbats qui sont importants. Mais dites amen. Amen. Dites un bon amen. Amen. Est-ce que vous ne recevez pas cette révélation-là? Il n'y a que le dimanche. On est tiré, on est bien. Donc, alors, on vient à l'église. Quand on dit,
mardi, il y a prière, une heure seulement de prière. On ne prie qu'une heure dans l'intercession. On dit, oh, c'est pendant la semaine. C'est exactement ce que cet homme a dit. Ce n'est pas, le Shabbat. C'est pas la nouvelle lune. Et dans une certaine église, on m'a dit, même si tu ne vas pas à l'église, va à l'église ne fût-ce qu'une fois par an les jours des Pâques. Vous connaissez, non? Dans la confession de foi. Comment ça? Les jours des Pâques uniquement, je vais à l'église. Il y a certaines personnes, même quand ils ne viennent pas à l'église, le reste de l'année, hein, le réveillon. D'abord, il vient dans la première partie, la deuxième partie, il la termine dans un bar, dans une boîte. Et il croit que Dieu... Alors là, il dit, Seigneur, je t'ai montré quand même ma bonne foi. J'ai fait moitié. Parce que je parle à quelqu'un. Nous n'aimons pas Dieu. La femme dit, écoute chérie, ce n'est ni nouvelle lune, ce n'est ni Shabbat. Mais moi, je vais aller pour voir l'homme de Dieu. Dites un bon amen. Parce que son Dieu agit et peut agir n'importe quel jour, à n'importe quel moment. N'attends pas au miracle de Dieu que le dimanche. Attends-toi au miracle de Dieu à tout moment, chaque jour. Va dans la présence de Dieu, pas simplement le dimanche, pas simplement quand on dit il y a la veillée, quand on dit il y a séminaire, alors tu viens là, alléluia, alléluia, et les autres jours. Laisse-moi venir dans la maison de Dieu. Le mardi, je suis dans la maison de Dieu. Tu sais pas, je ne sais pas. C'est pourquoi Paul a écrit aux Galates en disant, j'ai craint d'avoir travaillé en vain pour vous quand vous observez les jours, quand vous observez les mois, quand vous observez les années. Je ne vous ai jamais enseigné, oh Galates dépourvus de sens, que les jours devant Dieu sont différents, qu'il ne faut venir que dans les grandes solennités. Dis, j'ai craint d'avoir travaillé en vain. Galates chapitre 4. Vous lirez ça chez vous à la maison. Est-ce que quelqu'un a compris qu'il doit venir au rayon de prière n'importe quel jour? Je vais avancer. C'est très bien. Toi, tu n'attends que le dimanche, c'est ton problème. Hein? Je ne te force pas. Il y a des gens, quand tu lui dis, ça dit, ah oui, mais le pasteur nous force. Le pasteur nous force. Je vais vous dire la vérité. D'ailleurs, même si je vous forçais, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de mes attributions. Dites amen. Mais c'est comme ça. Tu peux dire, oui, il nous force, mais c'est justement ça que Dieu m'a appelé à te forcer pour te faire rentrer au ciel. Même si tu ne le veux pas. Regardez les petits-enfants. Il y a des moments où ils n'aiment pas manger. Mais les parents savent qu'ils n'ont pas mangé, ils vont manquer de force. Vous faites quoi? Parfois, vous lui pincez les mâchoires pour qu'elle ouvre sa petite bouche pour que tu mettes la purée. Vrai ou faux? C'est comme ça parfois avec nous les hommes de Dieu. Il y a des moments où je suis obligé de te forcer. Tu veux, tu peux dire ce que tu veux, mais ça fait partie de mon boulot. Alléluia!
Les jours où tu seras au ciel, tu viendras, pasteur, vraiment merci. Merci, si tu ne m'avais pas forcé. Moi, c'est parce qu'il y a eu des gens qui m'ont forcé, vraiment forcé la main. Il revenait pour me prêcher l'évangile. Il repartait, il revenait. Il revenait, il me cassait les pieds jusqu'au jour où il n'était plus là. Mais la semence avait fait que dans le bureau où je travaillais dans une centrale nucléaire, je donne mon cœur au Seigneur. Sinon, je serais encore païen. Et c'est la personne qui souffrirait le plus, c'est elle. Quand ton mari n'a pas Dieu, quand ta femme n'a pas Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je n'entre pas dans les détails. C'est pourquoi quand je vois des hommes chrétiens qui n'aiment pas leurs épouses, qui ne leur témoignent pas de l'affection, qui ne sont pas gentils avec eux, ou des femmes chrétiennes qui sont acariâtres avec leur mari, qui sont monstrueuses avec leur mari, avec leur... J'ai dit, mais c'est ça des chrétiens? Sois gentil avec ton mari. Dites amen. Sois bien avec ta femme. Dis amen. Sois bien avec ta belle famille. Reçois-le. Alléluia. Accueille-le. Il y en a qui sont compliqués, c'est pas grave. Tout le monde n'est pas aussi simple. Il y a des gens qui sont compliqués. Tu es appelé à les supporter, à tracer des limites, à leur montrer aussi avec l'autorité que tu as reçue ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Et tu avances. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et donc la femme part. Le jour où ce n'est pas la nouvelle lune. Le jour où ce n'est pas le Shabbat. Et voilà. Elle quitte Carmel. 40 kilomètres. Pendant des heures. Au loin. Élisée dit, Géasi, tu vois, la tsunamite est en train de venir nous voir. Va lui demander ce qui va ou ce qui ne va pas. Géasi part et rencontre, dit, madame, est-ce que tout va bien? Elle lui dit, monsieur, Géasi, tout va bien. Géasi dit, ok, allons. Mais Géasi était le serviteur de l'homme de Dieu, n'est-ce pas? Déjà, les habitants, la dame avait dit aux gens de la ville, tout va bien. Elle pouvait ne fût-ce qu'au serviteur de l'homme de Dieu dire que tout, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais elle dit, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Je veux voir celui par qui la parole de Dieu est venue. Ok? Et ils arrivent, et la femme vient se jeter aux pieds d'Élisée et commence à pleurer. Ah, oh, mon Seigneur, qu'est-ce que je t'avais dit? Ne me mens pas. Quand Géasi voit cette dame au pied de l'homme de Dieu, il vient, il veut repousser l'homme de Dieu. Il y a des gens, ils vont te repousser quand tu veux t'approcher de l'homme de Dieu. Ils vont te repousser. C'est comme l'aveugle qui criait, Jésus, fils de David, nous dit, tais-toi. Crie plus fort. Dites un bon amen. Et puis, Élisée dit à Géasi, Géasi, laisse-la. Cette femme est dans l'amertume, dans la douleur, dans la peine, dans la souffrance. Et le Seigneur ne me l'a pas révélée. Dieu me l'a cachée. Je parle à quelqu'un. Mes frères et sœurs, les hommes de Dieu que nous sommes, les pasteurs, les prophètes même, les apôtres, tout ce que vous pouvez imaginer, ils n'ont pas la capacité de tout discerner, de tout savoir, de tout comprendre sur la vie des autres. Quand un homme de Dieu s'élève toujours, Dieu m'a dit à propos de toi ça, 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 ça. Tous les jours, Dieu lui montre des choses sur ta vie. Dieu ne passe-t-il plus sa vie qu'à lui montrer des choses de ta vie? Et le reste de son travail, il va faire quoi? Il y a des choses, Dieu ne nous montrera pas. Et c'est comme ça que tu entends certaines personnes nous dire, ah oui, oui, vraiment Dieu ne lui a pas montré que cette sœur était méchante. C'est pas un homme de Dieu. Tu es ridicule. Dieu va passer son temps à me révéler le chagrin et l'amertume de chaque personne, de chaque personne. Quand est-ce que j'aurai le temps de lire la parole de Dieu? Quand est-ce que j'aurai le temps de prier? Le moment venu, Dieu le révélera. Le moment venu, Dieu fera remonter cette vérité en surface. Alors méfiez-vous aujourd'hui des prophètes qui voient tout, qui entendent tout, qui savent tout à tout moment sur votre vie.